RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules, Abel Bouilly, éducateur, Sandrine Pégan, avocate, Bérénice Levé qui est philosophe. Dans un instant, on va s'intéresser à la canicule et au dress code, puisque la chaleur très forte s'est installée en France. Est-ce qu'on doit dire, écoutez, tant pis les dress codes, l'important ou la manière dont on s'habille, l'important c'est plutôt qu'on soit à l'aise et qu'on soit aéré au travail, où que l'on soit. Vous venez en parler avec nous au 32-16, mais je voudrais qu'on retrouve Julie qui était juste avec nous avant la pause. Bonjour Julie, enfin, rebonjour Julie. Pardon, mais je voulais que vous complétiez votre témoignage à propos du périscolaire, parce que l'un des animateurs, il a été en contact avec votre enfant, mais... Est-ce que vous avez réussi à savoir si s'était passé des choses ou pas, alors, finalement?
Alors, en fait, on l'a appris donc en avril dernier. Au début, on a essayé de parler avec lui en restant très évasif, parce que on s'était renseigné, on avait compris qu'il fallait pas insister trop, qu'il fallait laisser l'enfant parler, profiter des vacances pour faire un climat un peu de détente à la distance de l'école, etc. Et en fait, les propos sont venus plus tard. Les mois qui ont suivi, il en reparlait de façon spontanée, etc. Avec voilà des propos qui nous ont inquiétés. Mais comme je vous expliquais, on a vu effectivement...
Que disait-il ?
Il a eu des propos où il était très triste, où il parlait plus effectivement de ses parties intimes, où il recitait le nom de l'animateur, etc. Donc effectivement, c'était des choses qui nous ont inquiétés, qui nous ont mis la puce à l'oreille. Mais effectivement, c'est pas à mon sens, le travail des parents. Et je pense que tous les parents qui étaient dans notre situation l'ont bien senti, qu'on n'était pas bien placés pour savoir ce qui se passait vraiment. Effectivement, on est ceux qui connaissent le mieux nos enfants, mais... l'implication affective est trop forte, on n'est pas là pour faire la part des choses. Et c'était pour dire que vraiment, enfin, il y a des spécialistes de la petite enfance qui ont les capacités, qui ont les moyens, qui ont les outils pour détecter les enfants effectivement soumis à des violences sexuelles, et que c'est eux qui font la part des choses. Et que du coup, quand on entend que cet animateur est relaxé faute de preuves et que les parents auraient peut-être insinué des choses, moi ça me scandalise, parce que quand on a été dans le cœur du problème, enfin voilà, moi-même on est au cœur du 11e arrondissement, et nous il y a trois autres animateurs suspendus qui ont été en contact avec notre fils. Je veux dire, vous vivez avec une épée de Damoclès, et
c'est
peut-être la crainte, et peut-être qu'effectivement il y a un effet un peu de condensation là avec des gens qui s'angoissent et des parents, mais parce qu'en fait on a eu très peu de soutien, on s'est retrouvé seul face à des questions terriblement difficiles auxquelles on n'a pas les outils pour répondre. Mais je pense qu'avant tout, c'est la parole des enfants. Moi, je veux dire, je peux pas entendre qu'un enfant puisse parler effectivement d'actes très précis sans les avoir vécus ou sans y avoir été confronté de façon directe ou indirecte.
D'autant que vous êtes médecin urgentiste.
Exactement,
donc j'imagine que vous avez eu l'habitude aussi d'écouter des enfants et de les voir.
Ouais, en tout cas, on essaye de. Enfin, je pense qu'on a une attitude un peu plus dans la distance.
Bien
mais
sûr.
En fait, quand c'est vos enfants, en vrai, vous êtes
mais un peu démunis,
quoi. Ouais, et puis les gens sont assez intelligents. Je pense que c'est assez rare. Je pense que chacun, avec ses outils, arrive quand même à essayer de détecter les signaux d'alerte chez ses enfants et à mettre.
Et dans tous les cas, ça vous choque. La relax au bénéfice du doute, ça vous choque.
Moi, ça a été un coup de massue hier, vraiment,
bien
parce
sûr.
Que alors, en plus, je fais partie des représentants de parents d'élèves. J'assistais aux réunions, etc. Et vraiment, pour le coup, cet animateur-là, il y a eu d'autres suspensions derrière, avec peut-être. On a l'impression pour l'instant moins d'enfants concernés, mais pour le coup, là, cet animateur-là, enfin.
Du coup, cet animateur, il peut de nouveau être en contact avec des enfants?
Alors, j'étais pas au procès hier, mais de ce que j'ai compris, il serait inscrit maintenant au fichier des délinquants sexuels. Donc, je l'espère, il devra.
Alors, il n'est pas condamné, mais il est quand même inscrit au fichier.
Il est condamné pour harcèlement sexuel sur des collègues. En fait, il est avec sursis, donc il n'y a rien qui va.
Parce que du fait de la relax, il ne peut pas être inscrit sur ce fichier-là. Mais comme en effet, il a déjà été condamné pour des harcèlements sexuels.
Donc, la parole de l'enfant est fausse, mais la parole des deux collègues est vraie. C'est ça. Le message qui est envoyé, donc
exactement.
Ça va pas du tout.
Mais
ça
Julie,
va pas du
tout. Par rapport à votre fils, vous lui reprochiez quoi à l'animateur? Quels étaient les faits qui étaient dénoncés par votre fils?
Alors, mon fils n'a pas dénoncé de faits concrets, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas eu de plainte et que l'évaluation de la psychologue a suffi pour nous rassurer, nous dire.
D'accord.
Il a peut-être entendu effectivement des choses, mais il n'a pas donné d'actes concrets. Il a juste eu des propos qui étaient inhabituels chez lui. Puisque nous, on parle pas de, enfin, il avait 4 ans l'année dernière, donc il y avait pas de, on parlait pas de sexualité à cet âge-là, plutôt d'intimité. On abordait ça à travers des livres, mais il y avait pas voilà. Donc il y a pas eu de, à notre sens, pas d'agression, et on l'espère. Il y avait pas, mais il y avait en tout cas, il était concerné par cette chose-là. Il a cité plusieurs fois le nom de l'animateur et d'autres choses que j'ai envie de garder de façon privée. Mais en tout cas, nous, il y a pas eu de plainte. Mais,
mais donc en tout cas, peut-être que vous pourriez estimer que c'est un comportement inapproprié de l'animateur qui ne devrait pas tenir par rapport à des enfants. Maintenant, de là à ce qu'il y ait une caractérisation de l'agression sexuelle, il y a quand même un gouffre.
Non mais il faut comprendre ce que Julie veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle veut pas dire, parce que je pense qu'à l'antenne c'est très dur pour une maman. Il y a dû avoir un éveil à la sexualité auprès de son enfant de 4 ans qui est inadmissible et qui ne doit pas l'étonner du fait qu'il y a pu avoir des passages à l'acte sur d'autres enfants au vu des éléments que elle a recueillis de la part de son enfant.
C'est Julie, je vous remercie de ce témoignage, Julie. On voit bien que cette affaire de toutes les manières est loin, très loin d'être terminée.
On a découvert, j'ai l'impression qu'on découvre, on est en train de soulever la couverture et que sous la couverture il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers.
Merci Julie.
Merci pour votre
témoignage, Julie. Que va-t-il se passer dans la dernière heure des GG, des grandes gueules? On va s'intéresser au défilé du 14 juillet à Paris. Il faut s'inscrire maintenant si vous voulez y assister avec un QR code. On est vraiment maintenant tombé dans l'ère des QR codes,
du pass,
des codes barres, des passes. Des mails inscriptions avec la confirmation de la confirmation. Bref, est-ce que ça vous choque ou pas? Vous venez en parler tout à l'heure avec nous. L'autorité du père, qui aujourd'hui est son manque, le manque d'autorité du père est l'un des mots de notre société. C'est la tribune que Bérénice a signée dans le Figaro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une partie du délitement de notre société vient de l'absence de père. Vous viendrez en débattre avec Bérénice au 32-16. Mais puisque là, il fait chaud, très chaud, trop chaud, si on venait un peu sur les codes vestimentaires.
Les Casaraïs.
Vous avez une playlist quand même incroyable.
Chanter ça dans les balles pop, je me souviens, tu sais. Et puis après, t'enchaînes avec Big Bisou.
Bah, bien sûr.
Mais bon, c'était autre temps. Mais non, mais
ce sont des standards de la chanson française.
J'ai bien raison de dire que vous êtes des boomers.
Ah, mais complètement.
Non, mais d'avoir la culture, c'est pas d'être boomer.
Vous êtes un peu trop focalisé sur cette période-là de votre vie.
Mais parce que ça nous rappelle notre jeunesse festive et insouciante.
Il y avait une insouciance qu'il n'y a plus dans la société aujourd'hui aussi.
Qui est le nouveau Carlos? Est-ce qu'il y a un Carlos? Il n'y a plus de chansons, tu sais, un peu comiques, parodiques. Ouais. C'était d'ailleurs un style en soi en France, hein, avec Bourville et tout ça. Il n'y a plus. Hein.
Non,
on chante sérieusement, tristement.
Les violences faites aux femmes.
Non, voilà. T'as raison, aujourd'hui, il n'y a plus de chanteurs un peu déconneurs, un peu déconnades.
Si, Patrick Sébastien.
Mais c'est la même génération que Carlos.
C'est la génération.
Elle a commencé en 1975.
Il y a encore le vent en poupe.
Qu'est-ce que vous en pensez? La canicule et la manière de s'habiller. Est-ce que maintenant on doit dire, allez, peu importe, le tout c'est d'être à l'aise et de ne pas avoir chaud? Qu'est-ce que vous en dites, les GG?
Moi, je pense qu'il manque une petite chose dans ce dress code. Donc, short et
short, tongs, brassière, t-shirt.
Chaussettes, claquettes. Et alors là.
Bah, tu envoies en ville, des chaussettes claquettes.
Oui, mais bon, tu vois.
Moi, là, on parle du lieu de travail.
Oui, oui. Ben,
alors, il y a des banques en France qui ont allégé la tenue, sachant quand même qu'il y a une injustice entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'une femme peut facilement mettre une robe légère, etc., et trouver des tenues qui seront des tenues respectables, mais quand même plus agréables à porter.
Tu te victimises.
Un homme, c'est soit le costard, soit c'est le short. Donc en fait, il y a pas tellement de.
Alors tu as des costumes en lin. Pardon de te donner encore quelques conseils au niveau
de ta tenue vestimentaire aussi pour les costumes
et de ton style. Oui. Mais tu as des costumes en lin qui sont très légers et t'es pas obligé de porter à chaque fois un costume en flanelle.
Attends, mais les vestes manches courtes, j'ai jamais vu.
C'est-à-dire que ça s'arrête ici et c'est très élégant.
Ouais, exactement. Non, ouais, c'est lui qui l'a dit. Hein. Moi, je parle de costume.
Non, mais reconnaissez que pour les femmes, c'est plus facile que pour les hommes.
Non, je pense
les hommes vont vite apparaître comme étant trop débraillés. Trop,
tu vas dans les grandes enseignes et tu vas trouver des tenues qui sont légères et à moindre prix.
Il y a des chemises
les banquiers, quand tu es là en train de leur dire que tu vas leur confier ton patrimoine et qu'ils vont te recevoir en short et en claquette et en t-shirt, pardon, mais tu as un peu de décence.
Donc tu veux que dans les banques, on reste avec des tenues.
Oui, bien sûr. Je vais vous dire, moi, par exemple, je suis avocat. Donc pareil, tu crois que je suis en maillot de bain sous ma robe quand je plaide à la cour d'appel, parce qu'au moins, au tribunal judiciaire, c'est climatisé. Donc là, je peux être même avec un cache-nez, c'est pas un problème.
Certains avocats et avocates qui étaient nus sous leur robe.
Bien sûr. Non, mais bon, voilà.
Ça existe.
Non. non. Évidemment que non. Je suis, je suis corporatiste.
Oui,
non,
voilà, tu ne veux pas dénoncer tes collègues.
Tout le monde est décent. Mais voilà, en tout cas, je souffre avec la chaleur et pourtant, je porte la robe.
Mais,
Bérénice,
je crois que par-delà simplement la question de la canicule et du dress code, je crois que c'est quand même un énorme problème qu'il n'y ait plus une certaine élégance, décence. Moi, je suis extrêmement choquée qu'on soit reçu par des gens qui sont tatoués, qui sont. Donc, je crois que là, il y aurait quand même des principes qui sont également à réaffirmer au sein des entreprises.
Il y a du laisser-aller
plus que du laisser-aller, il y a justement ce fameux principe, être à l'aise, venez comme vous êtes, voilà. Et donc, non, je suis désolée. Par exemple, en tant que professeur, dès lors que je suis face à mes étudiants, je ne vais pas être dans une tenue négligée ou
violente.
Voilà, il y a. Alors là, on va retrouver le thème de l'autorité, mais vous avez quelque chose à incarner. Vous entrez en scène à partir du moment où vous travaillez, et donc
il représente une institution.
Justement, parce que la chanson de Rick Azaray que vous avez passée, c'est pour aller danser le soir et non pas pour effectivement exercer.
Parce qu'elle le dit, ce soir nous irons danser sans chemise, sans pantalon.
Voilà. Donc dès lors que l'on, moi je j'aime énormément.
Nous irons bosser.
Toi tu es pour tenue correcte et exigée.
Oui, parce que là encore,
venez en short, messieurs, venez en short.
C'est aussi l'art de respecter les formes, les mises en forme et d'effacer sa personne devant la fonction que l'on remplit et incarne.
Pour moi, ça dépend des corps de métier. Tous les métiers de bureau, effectivement, tu dois rester dans une certaine élégance, d'autant plus que les bureaux sont climatisés, la question ne se pose pas. Maintenant, moi, qu'un prof soit en jean basket, ça me dérange pas.
Ah si,
qu'un
moi,
prof
ça me
soit
dérange.
En t-shirt, ça me dérange pas. Ce qui compte, c'est la qualité de l'enseignement.
Non,
et au contraire,
attendez.
Toi, tu veux le prof d'histoire d'Edouard Philippe, ou je sais plus de quelle matière, qui venait en costume.
Non, mais quel exemple tu donnes aux enfants?
Mais quel exemple de quoi? En quoi le fait que ton prof soit en costume cravate, ça va être
gentil?
Il y a cela et
le
on fasse tombe,
non.
Et nous pouvons exiger
basket,
justement des élèves. Moi, je me souviens d'élèves en terminale, notamment, totalement avachis sur leur bureau. La première des choses que je leur demandais, c'est comment vous voulez recevoir un quelconque enseignement si vous n'êtes pas déjà dans une certaine attitude, justement.
Mais
de
là, c'est pas le vêtement, le fait d'être avachi.
Mais c'est la même chose. C'est tout un travail de mise en forme et du côté du professeur. Et alors, le professeur en jean, il se met à totale égalité avec ses élèves. Et c'est un énorme problème.
Il n'y a plus d'autorité parce que tu es habillé comme lui.
Mais la hiérarchie est extrêmement importante.
Donc les profs ne sont plus respectés parce qu'ils se mettent en jean basket.
Ça commence par là.
Ce soir, je dormirai moins bête parce que j'apprends ces choses depuis 9h.
Tes élèves, tu ne tutoies pas tes élèves, voilà. Tu les vouvoies.
C'est pas la même chose, le tutoiement et le vouvoiement. Moi, je suis pour le vouvoiement.
Non, mais Abel, mais reconnais
tu peux être en jean basket.
Non, mais on reconnaît que quand on a accepté que les profs arrivent un peu débraillés.
C'est quoi débraillés?
D'ailleurs, c'est amusant parce que paradoxalement, on voudrait maintenant que les élèves portent des uniformes. Donc ça veut dire quelque chose, et on se dit que c'est pas mal dans les pays anglo-saxons ou aux Antilles qu'il y ait ces uniformes d'appartenance, ça donne une certaine tenue, etc. En revanche, le prof pourrait arriver un peu n'importe comment, etc. Mais il faut
il y a un minimum de tenue. Quand on dit jean basket,
tenue,
vous imaginez
tenue,
le jean déchiré,
la
tenue,
c'est une chemise à la rigueur. Bah,
tu vas voir ton médecin.
Ouais.
Ben ton médecin, s'il te reçoit en short, en tongue, tu vas pas le prendre au sérieux.
Bah oui.
Moi personnellement, je m'en fous.
Quand tu vas voir, les enfants en tant qu'éducateur,
toi,
tu es
toujours impeccable.
Oui, tu sais comment je vais les voir.
C'est bizarre, toi.
Moi, je peux aller faire des interventions en jogging. Je te le dis clairement.
Parce qu'on n'a jamais vu sur les réseaux.
Ah bon,
jamais présent.
Alors là, tu viens de t'afficher.
Alors,
parce que
il y a quelques années.
Non, alors là, tu viens de t'afficher parce que regarde même mes dernières photos où j'étais en short à Marseille, tu vois. Ah ben non, mais va revoir. Alors là, j'invite.
Ils sont tous
en même temps, pardon. Et c'est pas
possible. Et quand je suis en intervention.
C'est pas pareil.
Quand je suis en intervention auprès des jeunes, ça dépend. Et je peux faire des interventions en jogging. Et je peux te dire que l'autorité, je l'ai. Et qu'à la fin, les jeunes, ils me disent, j'aimerais que vous soyez mon père. Ça n'a rien à voir. C'est le message que tu apportes et l'état d'esprit avec lequel tu apportes. Ben non,
on va voir un avocat qui te reçoit en survêt. Bah non, tu le prendrais pas.
Tu ne vas pas lui confier ta vie, exactement.
Vous êtes très fort. Moi, j'ai dit tout ce qui concerne les métiers de bureau, banquier, avocat, politique, ça, c'est costume. Faut que tu sois élégant.
Prof, non. Mais
Les policiers,
tes parents d'élèves, tu vas voir le prof pour discuter de ton fils ou ta fille.
Le prof te reçoit
en survette ou un peu débraillé.
Un jean basket avec une belle chemise, t'es forcément débraillé.
Non, tu viens juste de préciser. Voilà.
Non, j'ai dit jean basket. Ah ouais, ben d'accord, mais je peux rajouter. Ah non, mais là, qu'est-ce que vous
la belle chemise, vous avez pas dit tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous êtes. Attendez, vous êtes de mauvaise foi.
Non, mais vous êtes inconscient.
J'ai dit jean basket. Après, au-dessus, tu peux mettre une chemise, un pull, tu mets ce que tu veux.
J'ai dit que
le prof doit être torse nu au-dessus du jean. Ah non, mais la mauvaise foi, vous n'avez pas dit la belle chemise. Vous êtes incroyable.
Regardez, on a la photo d'Abel avec les jeunes à Marseille.
Non, regardez, c'est un petit polo.
Prenez la photo où je suis en short qui date d'il y a quelques jours et toutes les fois où je suis en jogging.
Tu es en basket, blouson, jean devant une trentaine de jeunes là, voilà.
C'est amusant parce que quand tu viens à l'antenne, t'es impeccable, t'es le mieux habillé des grandes gueules, t'es costard cravate.
Mais parce que à la vie, je suis habillé comme ça. Et tu sais, certains jeunes, faut créer aussi des facteurs d'identification. Mais vous avez le droit de pas être d'accord. Il y a pas de souci. Moi, je vous ai laissé parler, donc laissez-moi finir. Il y a des jeunes qui ont besoin de s'identifier, surtout des jeunes qui sont en décrochage. T'arrives en jogging, c'est mort, on t'écoute pas. Je te le dis clairement. Surtout que quand tu arrives dans une salle, c'est pas le cadre de l'éducation nationale. Les 20-30 minutes. Il y a un espèce de jeu où les jeunes, ils te testent aussi. Les jeunes, ils te testent. Et après, quand tu arrives, tu peux avancer sur des choses. Et ensuite, tu peux les encourager à évoluer, y compris vestimentairement. Mais faut savoir les prendre, les jeunes. Et le défaut de l'éducation nationale, puisque c'est l'exemple que tu prends, et c'est pour ça que l'éducation nationale ne marche pas, c'est pas qu'une question de vêtements. On a mis tous les jeunes comme si c'était des boîtes de conserve dans une usine et on pensait que tous les jeunes étaient pareils. Un des défauts de l'éducation nationale, c'est de valoriser les matières scientifiques au détriment des matières littéraires. Bah, on évalue l'intelligence d'un jeune. Donc le problème de l'éducation nationale, c'est pas le vêtement. Alors oui, un prof doit pas arriver débraillé, évidemment, avec le col en V qui descend jusque là. Mais je répète, jean basket avec une chemise, j'enlève l'adjectif belle.
Donc alors attends,
belle,
si je suis ta logique, pull, ouais. Moi je devrais m'identifier à mes clients et donc du coup ils arrivent
c'est
avec la casquette
la même
à l'envers,
chose, mais non,
en train
mais
de machin,
arrête de faire semblant de pas comprendre. Mais non, mais toi t'es avocate. J'ai dit les avocats, ça doit être élégant.
Vous souvenez à un moment donné, Gérald Darmanin, vous souvenez de Gérald Darmanin qui est ministre maintenant depuis des années, puis à un moment donné il avait enlevé la cravate, il voulait faire sans doute plus cool, etc. Et bien ça lui a été reproché par ses équipes et par les gens qui le rencontraient en disant mais non monsieur le ministre remettez la cravate.
Alors short et tongs au travail, on a exagéré un peu l'expression, mais c'est pour bien comprendre qu'aujourd'hui avec la canicule est-ce qu'on peut arriver un peu habillé détente. Vous dites non,
les gens sont
à 63%. On va accueillir Jennifer de Saône-et-Loire. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Aide-soignante, c'est vous qui avez gagné les vacances bel en bras, Jennifer.
Je vous ai gagné ma journée, vous imaginez même pas. Je vous ai écouté tout le matin, j'étais en train de désherber dans ma cour et j'y allais, je tente. Vraiment, merci.
Jennifer, vous gagnez les vacances à la mer, à la montagne, à la campagne. Vous choisissez l'endroit, vous partez en famille ou entre amis. C'est un séjour d'une valeur de 2 000 euros et c'est tout compris premium.
Je vous adore, je vous écoute tout le temps. Est-ce que je peux vous demander une petite faveur?
Allez, on va essayer.
Le
maillot des grandes gueules.
Ah, le t-shirt DGG, on doit en avoir encore. Promis.
Je serais fière de ça.
On vous l'envoie, Jennifer. Et encore bravo et merci de votre fidélité au GG. Et les vacances, c'est pour vous.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bel en Bras. Bel en Bras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, l'absence de père, est-ce que c'est aujourd'hui l'un des problèmes de notre société, d'une société qui s'effrite, qui se délite? C'est la tribune qu'a signé Bérénice Levé dans le Figaro et vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Il est 11h25, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, Abel Bouilly, l'éducateur, Sandrine Pégan, l'avocate, la philosophe Bérénice Levé. Justement, c'est à une tribune de Bérénice que nous allons nous intéresser maintenant. Alors, c'est une tribune qui est sortie dans le Figaro, Bérénice Levé, où tu reviens sur ces drames qui ont fait réfléchir notre société, sont les morts, tu le dis, de Thomas, d'Elias, de Quentin, de Louis, de Liana, et tu voulais pointer un manque peut-être dans notre société.
Non, en fait, mon propos ne concernait pas. Alors c'est le titre qui a été retenu par le Figaro, mais c'est pas l'entièreté de mon propos. Mon propos était de dire que il ne s'agissait pas simplement de voter une quelconque loi pour résoudre le problème, mais de s'interroger sur le problème de l'éducation et
de l'autorité
et surtout des institutions donc qui se sentent autorisées à fixer des limites, à fixer des interdits, que ce soit la famille, que ce soit le professeur, que ce soit la justice, et qu'elles comprennent que arrêter au plus tôt un enfant dans le mal qu'il est capable d'accomplir, puisque le problème, si vous voulez, c'est qu'on vit quand même d'un certain rousseauisme, l'idée que l'être humain serait bon par nature et qu'il serait perverti par la société. Or, le bien et le mal nous traversent tous, tout être humain est traversé par cela. Donc, au plus tôt, il faut précisément qu'il y ait des interdits qui empêchent l'enfant de suivre. Je citais une très belle phrase de Bergson qui dit que justement, si nous avions été abandonnés à nos caprices, eh bien, que serions-nous devenus ? Eh bien, voilà, l'enfant qui suit son seul désir, son seul plaisir, qui n'est arrêté par rien, une justice qui tarde à punir un enfant, et j'évoquais aussi le cas du jeune Ramza, qui précisément n'est arrêté par rien, qui se retrouve face à un maire c'était pas simplement, alors c'est la question du père, mais plus largement
d'une autorité.
Voilà, de la figure d'autorité et qui se sent légitime dans sa puissance d'arrêter
On est dans une société qui efface la figure de l'autorité, quelle qu'elle soit.
Totalement. Et mais attention,
donc,
pas dans une société.
Quand tu prends la figure du père, c'est de l'incarnation.
Voilà. Et c'est une histoire quand même qui a désormais un demi-siècle. Moi, je suis née dans les années 70. Et c'est le moment où, précisément, avec la Libye de la liberté de l'enfant, eh bien, on s'est senti de moins en moins autorisé à poser des interdits.
Alors, d'accord avec cette réflexion.
Moi, je suis d'accord, et moi, je vais quand même rester sur l'image du père, parce que c'est quelque chose que je vois. L'absence du père, c'est un fléau qui détruit notre jeunesse. Et moi, je le dis, je fais partie des personnes qui pensent que mai 68 a vraiment fait du mal à la société. Oui, il fallait déverrouiller certaines choses, mais à force de tout déverrouiller, on est parti du fait où on avait besoin de certaines libertés à il est interdit d'interdire. Moi, je suis désolé. Moi, il y a un symptôme que je vois. Des jeunes qui partagent des vidéos où ils frappent leur mère, par exemple. C'est des choses qui étaient inimaginables à mon époque. Et oui, l'absence du père, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de jeunes qui ont des ressentis vis-à-vis de ce père, soit absent, soit présent de façon nocive aussi, c'est-à-dire le père qui boit, le père qui bat la maman ou la campagne. Et oui, les jeunes, ils sont en demande de cela. Et c'est à l'image de ce que je disais tout à l'heure, les éducateurs, on a souvent cette remarque, j'aimerais que vous soyez mon père, j'aimerais que vous soyez mon grand frère. Et contrairement à ce que l'on croit, même lorsque ces jeunes jouent au con, comme tu dis, il faut agir dès les premiers signes qui nous alertent, ils sont en demande
de cette
autorité.
Pourquoi cette figure paternelle disparaît ? Pourquoi on a effacé la figure paternelle ?
Moi, je pense que déjà, l'image. Après, je te laisse continuer. L'image de la famille, on a marché dessus. Que la famille devienne entre guillemets protéiforme, pas de souci. Mais il y avait quand même l'image de la famille traditionnelle sur laquelle on s'est totalement assis. Bien c'est sûr. Pareil. Il fallait ouvrir sans fermer ce qu'il y avait avant.
On a même jugé un peu ringarde, voire
exactement.
Bien sûr. Et surtout, on a pensé la famille sur un modèle contractuel où finalement les parents étaient simplement les parents et les enfants étaient sur un même plan.
Exactement,
et,
sur ça, je suis d'accord.
Et donc,
il y a aussi la banalisation des séparations, c'est-à-dire que, pardon.
De la hiérarchie.
Non, mais oui, mais on a changé de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la société du divorce, de la séparation.
Oui.
Donc il y a des familles.
Oui, mais combien même il peut y avoir un divorce, le père peut être
bien sûr, tu vois.
Oui, mais malheureusement, souvent dans les divorces,
voilà, et c'est la maman qui gère. Voilà, on est d'accord.
Et ce qui est important, effectivement, dans la figure du père, c'est que la chose, quand j'utilise le mot de s'incarner, une autorité qui s'incarne, il y a déjà le physique, il y a la force, il y a quelque chose justement qui s'impose de soi et qui ne tremble pas en définitive dans l'interdit qu'il pose. Et pour l'enfant, c'est extrêmement rassurant que de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour...
Moi, Bérénice, je suis très partagée sur ta tribune. Alors, je partage à un moment donné une partie de ton diagnostic, donc à laquelle justement j'adhère. Où en effet, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'une société a forcément besoin d'autorité, de transmission et de limites. Mais là où je décroche avec ta tribune, c'est quand tu penses avoir trouvé la cause principale de l'ensauvagement. Et tu parles justement de l'effacement du père. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les années 50, les années 60, les violences les plus extrêmes, là où il y avait une figure paternelle qui était extrêmement forte, eh ben il y a eu des viols conjugaux, il y a eu des viols intrafamiliaux, il y a eu des violences déjà par rapport aux enfants.
On n'était pas dans une dimension d'ensauvagement que nous connaissons.
Mais il y avait la figure paternelle qui était là, puisque tu es en train de dire qu'aujourd'hui la cause principale de l'ensauvagement, c'est l'effacement du père.
Non, mais tu n'as pas lu la tribune. Ce n'est pas la seule chose que... Non.
Pas seulement.
Mais non, pas seulement.
L'autorité d'une manière générale.
L'autorité en général.
Je peux décortiquer aussi mon argumentaire. Je n'ai pas dit que tout ton argumentaire était basé sur l'effacement du père par rapport à la cause principale de l'ensauvagement. Ensuite, de quoi j'ai l'impression que tu fais un peu un appel à la répression à tout va quand tu dis que la justice elle est trop laxiste. Je t'explique, ça fait juste quand même 20 ans que le code pénal s'est durci, qu'il y a eu des circonstances aggravantes qui ont été rajoutées, qu'il y a eu des délits et des infractions qui ont également été rajoutées dans le code pénal, et qu'en plus aujourd'hui on voit bien que les prisons sont pleines et elles débordent. Donc ça prouve bien que la justice, elle n'est pas laxiste. Et je t'invite à venir avec moi dans les prétoires et tu verras que la justice, à chaque fois, elle n'est pas laxiste. Elle prononce des mandats de dépôt, elle prononce des culpabilités.
Non, bah, de toute façon, on l'a vu simplement avec le meurtrier de Liana. Il y a quand même tout un...
Non, là, c'est une défaillance collective sur quelques personnes.
Et j'invoquais Pierre Legendre qui avait beaucoup fréquenté la protection judiciaire de l'enfance et qui témoignait de ce qu'il y a quand même un sentiment de la part des magistrats de se sentir coupable de précisément arrêter un enfant dans son escalade de la violence.
Donc c'est pour ça qu'il
n'y a pas le sentiment de légitimité
à la répression.
Que les lois soient là, c'est une chose. Que le magistrat se sente légitime dans ce pouvoir d'arrêter l'enfant, c'est une autre.
Alors ça provoque pas mal de réactions, cette tribune, ou plutôt la manière dont on en parle avec Bérénice Levé, c'est-à-dire l'effacement du père, mais c'est l'effacement de l'incarnation de l'autorité d'une manière générale aujourd'hui. Est-ce que c'est la cause du certain délitement de notre société? Dans un instant, Nicolas, qui sera avec nous, il est du côté des Hauts-de-Seine, on aura Sandrine, qui est aussi en Seine-et-Marne. Elles auront leur mot à dire à propos du père, à propos de l'incarnation, à propos de l'autorité. À tout de suite avec les Grandes Gueules, il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Grande gueule.
L'effacement du père et plus largement l'effacement de l'autorité, est-ce que c'est aujourd'hui la cause du délitement de notre société? C'est Nicolas qui va en parler avec nous avant de donner la parole à Sandrine. Bonjour Nicolas, responsable de magasin dans les Hauts-de-Seine. Bienvenue Nicolas.
Merci à vous.
D'accord avec ce que dit Bérénice?
Alors aujourd'hui, moi je constate juste qu'au-delà du père, c'est l'adulte, le monde de l'adulte qui disparaît en tant qu'autorité. Je vais vous citer deux exemples concrets. Le mien, il y a 30 ans, où quand je disais une grossièreté à la sortie de l'école, j'étais fustigé par les adultes et j'étais remis en place par la communauté adulte. Et ça me permettait de comprendre que j'étais pas à ma place avec ce type de propos. Aujourd'hui, si vous faites la même chose à une sortie d'école, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, puisque j'ai la chance d'avoir deux super petits garçons de 10 et 13 ans, où j'ai repris un camarade de mon fils, où le père est intervenu en me disant « Mais pourquoi vous dites ça à mon fils ?» Juste parce que votre fils a tenu des propos complètement hors cadre, qui étaient extrêmement vulgaires vis-à-vis d'un camarade. et que je pense que c'est pas le lieu ni l'endroit, quoi qu'il arrive, pour tenir ce genre de propos. Et qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, je me sens perdu face à mes congénères où on peut plus exercer en tant que société et en tant qu'adulte et en tant que parent un cadre global communautaire et sociétal qui nous permette de maintenir, entre guillemets, une évolution de nos
parce
jeunes
que les...
enfants.
Mais ça veut dire que Nicolas, que les parents n'osent plus dire quoi que ce soit à leurs enfants. Alors je dis les parents, je l'essentialise un peu, mais beaucoup de parents n'osent plus dire parce que on investit tellement maintenant sur son enfant, d'autant plus qu'aujourd'hui les familles nombreuses vont disparaître. Hein. On tend vers une société de l'enfant unique et encore s'il y a encore un enfant puisque la natalité baisse. Donc forcément, on investit tellement sur cet enfant qu'on veut surtout pas le contrarier, le frustrer. Et alors si en plus c'est une personne étrangère à la famille qui vient faire une remarque, alors là on a l'impression d'être soi-même.
Là tu parles des méthodes attaquer. Alternatives comme monter souris.
Comment vous faites avec vos enfants, Nicolas? Alors
moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir investir beaucoup de temps et d'explications, alors quand je vous le dis je suis comme vous, hein, je suis le parent le plus imparfait de la planète, ce n'est pas grave, mais à un moment donné c'est juste d'expliquer des tenants les aboutissants. J'ai un enfant qui fait du rugby, il veut en faire son boulot, s'il pense que s'il mange des sucreries à longueur de journée et qu'il fait pas d'effort pour s'améliorer physiquement, il va réussir, c'est une erreur. À un moment donné, la vie, elle est faite de je dois fournir des efforts, je dois m'investir, je dois tenter des choses, je dois risquer, je dois perdre, je dois gagner. Mais on peut pas rester sans rien faire. Et les tenants, les aboutissants, c'est hyper important, c'est la notion de droit et de devoir. Mon devoir de père, c'est d'essayer de les protéger, de leur donner toutes les chances pour réussir. Leur devoir à eux, c'est de travailler à l'école. Il n'y a pas de secret. Et c'est dur pour tous les parents de la planète. Mais je pense qu'on est dans une société qui baisse pavillon, qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus d'enthousiasme.
Exactement.
Non, et puis je crois qu'il y a deux choses importantes dans ce que vous avez dit. D'abord, être à sa place. Effectivement, moi, je suis très reconnaissante à l'endroit de mes parents de ne pas avoir confondu les places, justement. Il y avait la place des adultes, il y avait la place de l'enfant. Et ça, c'est une chose très importante. Et puis, l'autre notion que vous avez introduite, qui est absolument capitale pour moi, c'est celle de devoir. Et je vais même très loin. Je crois qu'à avoir sacralisé les droits, nous avons totalement fait perdre juste le sens de l'existence, qui est infiniment plus belle quand il s'agit de remplir des devoirs, d'avoir des devoirs à accomplir, c'est-à-dire d'être l'obligé de choses autres que nous-mêmes, plus grandes que nous-mêmes, et donc de servir quelque chose, quelqu'un. Et si nous déplacions l'enjeu, arrêter de se focaliser sur les droits de chacun, et alors là les droits de l'enfant, les droits du citoyen, les droits, et que nous donnions la priorité au devoir, on redonnerait beaucoup de sens à notre société.
Alors, Nicolas,
et aux individus qui composent notre société.
Excusez-moi, ça rejoint un petit peu le débat politique que vous aviez sur les deux extrêmes qui aujourd'hui malheureusement vont gangréner notre pays. C'est qu'aujourd'hui les gens veulent des réponses qu'ils sont plus capables d'apporter eux-mêmes dans leur quotidien. Moi je me lève tous les matins, on a toujours ces phrases fabuleuses dans les entreprises, donner la meilleure version de moi-même. Un jour j'ai dit à un formateur, mais espèce de débile, tu crois que je me lève le matin pour être la pire version de moi-même? Je me lève à 5h du matin, j'ai une tête de détruit parce que mon fils a été malade toute la nuit. Je vais travailler, je vais y aller, je vais sourire à mes collaborateurs. Je vais essayer de leur donner le maximum de choses positives sur la journée avec ce que j'aurai au fond du sac. Et si j'ai échoué, j'aurais fait le meilleur, mais je me lève pas le matin pour faire mal, je me lève pas le matin pour nuire, je me lève pas le matin pour pas me battre. Parce que chaque jour, on est obligé tous de mettre, on parlait tout à l'heure,
d'être
également adapté au travail, je mets mon short, mon costume, ma veste avec manche trois quarts. Ou pas, et à un moment donné il faut aller au matin.
C'est le costume avec le boy.
Alors Nicolas, on va voir ce qu'en dit Sandrine qui est office manager, qui est du côté de la Seine-et-Marne. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors Sandrine, l'incarnation de l'autorité aujourd'hui, si elle se délite, est-ce que ça provoque le délitement de notre société? Qu'est-ce que vous en dites, vous, alors Sandrine?
Alors moi je dis d'abord, il n'y a pas un père et une mère, il y a un parent. Et pour moi, c'est pas le père ou la mère qui donne le cadre de l'éducation, c'est quel cadre on donne à l'enfant. en fait, que ce soit un père ou une mère. Moi, je suis maman solo. Le papa de mon fils n'a pas voulu le reconnaître. Il a 10 ans. Et je peux vous assurer que je n'ai que des compliments sur son éducation parce que je lui ai appris d'abord « bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci, pardon ». Et que le problème, moi, général, je pense, c'est l'absence de cadre qu'on donne aux enfants. On n'a plus le droit de les nourrir, on n'a plus le droit de...
L'absence de frustration.
Bien sûr.
Et donc, voilà, c'est... alors moi, j'ai eu la chance de l'avoir tardivement, mon enfant, quelque part. J'avais 41 ans, et donc j'ai l'éducation des anciens. Et l'éducation des anciens, c'est il y a des limites. On les explique une fois.
Exactement.
Une deuxième fois, il n'y a pas de troisième fois, il y a punition. Et on donne un cadre comme ça. Et on explique à l'enfant qu'on n'a pas tout sans rien.
Est-ce que vous voyez, vous avez un fils de 10 ans, 11 ans, c'est ce que vous nous avez dit, Sandrine. Est-ce qu'autour de vous, c'est la même chose? Est-ce que vous voyez des enfants qui sont sur le même cadre que le vôtre, dans le même cadre que le vôtre ou pas?
Alors, sans papa, comme le mien, non, j'en ai pas. Mais une autre maman solo, parce que le papa n'est là qu'un week-end sur deux et les vacances, et que c'est pas lui qui a l'autorité, c'est mon amie, et elle a le même discours que moi. On a des cadres à donner. On n'est pas c'est pas le papa l'autorité, la maman les câlins, en fait. Ça, c'est, je trouve assez restreint.
Non, mais je n'ai pas. Mon propos ne se restreint pas à cela, et je vous concède.
Oui, je l'ai compris en vous
disant. Et je vous accorde. Je vous accorde totalement qu'une femme peut remplir, et effectivement, vous avez utilisé le mot, c'est donner un cadre, donner des limites, et évidemment qu'une femme peut tout à fait remplir ce rôle. Après, je pense que la polarité, si vous voulez, du père et de la mère doit s'établir en tout cas selon ce principe. Après, dans des situations comme la vôtre, vous avez la double responsabilité, en effet, de tenir ces deux exigences. Mais cela étant, je ne conteste en aucune façon que vous puissiez tout à fait élever votre enfant et en faire un être.
Parce que Sandrine, vous incarnez quelque chose, parce que vous avez votre enfant, vous avez votre vécu, et je pense que quand il voulut parler de manière franche, sûrement parfois autoritaire, mais il voit aussi d'où vous parlez. Et il voit aussi les difficultés, il voit le cadre dans lequel il évolue, il voit
un témoignage.
Le fait aujourd'hui,
et puis
voilà,
il voit une femme âgée, construite, d'expérience aussi. Voilà, et puis
il voit une incarnation.
Tout cela,
et donc en fait, je suis comme Nicolas, l'intervenant précédent. Je pense que il faut dialoguer avec les enfants, il faut donner du temps aux enfants. En fait, on n'est pas parents juste par intérim, on est parents tout le temps. Et le temps, c'est les punitions, mais c'est aussi le dialogue, c'est être là pour les devoirs, c'est être là pour expliquer les choses, c'est être là pour lui donner des pistes de vie, en fait, des chemins à suivre, et le laisser après grandir avec le ce qu'on lui aura apporté pour se construire. Et la frustration chez un enfant en fait partie. Moi, je trouve que dans l'éducation actuelle, chez les parents, la frustration de l'enfant n'est plus là. Quand il y est confronté, on voit ce que ça donne au niveau des
violences. On va prendre un autre exemple, Sandrine et Nicolas, puisque Nicolas a appelé des Hauts-de-Seine, Sandrine de Seine-et-Marne. On va prendre un exemple qui va nous amener du côté de la Dordogne avec Julien, chauffeur de taxi. Bonjour Julien.
Chauffeur de bus, pardon.
Bonjour, excusez-moi.
Bonjour l'équipe. Oui, bonjour. Y a pas de soucis.
Vous aussi, frères et sœurs, famille nombreuse, élevée par une mère.
Alors voilà, en fait, nous, on est de trois papas différents, trois papas absents, mais alors vraiment dès notre naissance, hein, comme ça, voilà. Ma mère m'a eu à 17 ans, ce qui est très jeune hein, aussi. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, on a été élevés dans le respect, non seulement envers elle, envers les gens autour de nous. Moi, je pense qu'à l'âge de 3-4 ans, j'entrais dans un magasin, dans un bus, c'était « bonjour ». Au revoir, merci, s'il vous plaît. En grandissant, adolescence, si la police te demande tes papiers, tu respectes ses autorités. Voilà, c'est tout ça en fait. Nos papas n'étaient pas là. Elle a été maltraitée dans son enfance, Julien. Elle ne nous l'a même pas fait envers nous, vous voyez.
Julien, c'est la raison pour laquelle, je vous dis, l'accent a été mis sur l'effacement du père. Mais ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était précisément d'avoir des adultes qui assument leur fonction d'adulte par rapport à l'enfant. Donc, après, il est évident que, simplement, je disais, je m'adressais surtout aux Olivier Faure, Marine Tondelier, etc., qui accusaient le patriarcat. Et là, à un moment, c'est à eux que je répondais, en invoquant, justement, la force de la figure du père. Mais mon objet était que, en tant que professeur, et je suis une femme, eh bien, la question ne se pose pas. La question est que je dois incarner l'autorité parce que. Voilà.
Le sujet, en fin de compte, peut-être qu'il aurait mieux valu mettre parent absent et ne pas mettre père. Parce que moi, aujourd'hui, vous voyez, comme je vous dis, notre mère a été élevée dans la maltraitance. Mais une maltraitance extrême. Elle ne nous a jamais levé la main. Elle ne nous a jamais maltraités psychologiquement. Elle nous a poussé à aller à l'école. Moi, à 18 ans, j'habite encore avec elle. Si je disais, je rentre à 23h, à 22h59, j'étais à la maison. Jamais personne n'est venu frapper à la porte de ma mère pour dire, votre fils, il a crevé des pneus, il a brûlé des voitures. La seule chose, c'est que je peux entendre que c'est dur pour une mère d'élever ses enfants seuls. Je suis sûr que ça n'a pas été simple pour elle. Mais elle n'a pas abandonné. Moi, les parents qui abandonnent, j'en ai marre. On veut être parents, on assume. Voilà.
Je suis donc en fait, Julien, pour résumer votre parole et merci parce que c'est très agréable de l'entendre puisqu'en effet il y a des mamans solo qui élèvent admirablement leurs enfants. Donc en fait, si je résume bien, c'est qu'il faut mieux miser sur la qualité de l'autorité plutôt que sur celui du sexe qu'il incarne.
Exactement. Père ou mère, il y a des pères solos qui sont très bien.
Très rapidement, quand même, un père qui entre dans une relation intime avec une femme et qui n'assume pas sa paternité, c'est quand même une défaillance. Ouais. Et l'idée n'a jamais été de dire que la place de la femme est à la cuisine ou que la femme ne peut pas gérer. Ouais, mais les pères qui, aujourd'hui, je le vois dès le jeune âge, des jeunes de 15-16 ans qui se marrent auprès de leurs potes, elle est tombée enceinte, je me suis barré, qu'est-ce que ça peut donner? Ça reste des drames. Et justement, ces mamans solo qui sont des héroïnes en réalité, mais je pense que si quand on rentre dans une relation intime, on préfère quand même que les choses se fassent papa et maman soient présents.
Merci à tous pour vos témoignages. Merci encore Julien d'avoir été avec nous. C'est lui qui aura conclu la discussion. Alors on a schématisé père absent égale société ensauvagée. Société ensauvagée, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec Bérénice? Totalement d'accord, 67%.
Ouais. Bon, ouais, c'est bien.
Et le nombre de jeunes qui en veulent à leur père, qui veulent leur faire la peau parce qu'il a été absent, il y en a pléthore aussi. Hein.
Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Évidemment, nous allons parler du match ce soir, France-Maroc, 22h, quart de finale de la Coupe du Monde. Mais on va parler du match en dehors du terrain. Est-ce que vous craignez des violences et des débordements en cas de victoire du Maroc ou en cas de victoire de la France? On en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi. On parlera également de la petite phrase de Bernard Arnault dans le podcast Légende. En France, on ne supporte pas la réussite. D'accord, pas d'accord avec l'homme le plus riche de France. Ça, ce sera à midi et demi.
Podcast très intéressant parce que j'ai rarement entendu Bernard Arnault parler de lui aussi longtemps.
Il dit qu'il n'y a que ses petits-enfants qui peuvent faire ce qu'ils veulent de lui. D'ailleurs, voilà. Donc nous, on va parler de la réussite. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, pareil, il y aura un film sur Louis de Funès, nouveau biopic. Alors déjà cette année, on a eu De Gaulle, on a eu Michael Jackson.
Il y aura Johnny bientôt.
On va avoir Johnny, Louis de Funès. Bon, est-ce que vous en avez ras-le-bol des biopics? Est-ce que vous allez au cinéva pour voir des biopics? Est-ce que c'est un manque d'inventivité?
Le De Gaulle, il est formidable, il faut aller le voir.
Je conseille.
Il faut aller le voir. Moi, j'ai vu le deuxième hier soir. Allez-y. En plus, on reste 2h30 à chaque film dans une salle climatisée. C'est bien agréable.
Bonne émission avec Estelle au 32-16.